Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très contente de vous retrouver pour Mission Vision. Aujourd'hui, on va avoir une belle émission bien remplie parce que je vais avoir en studio Christophe Fortier-Baudet qui a un handicap visuel qui va venir nous parler de son vécu. Un parcours vraiment intéressant. Ensuite, on va avoir aussi Ariane Breton qui va venir faire une chronique. On va parler du deuil, le deuil en lien avec la perte de vision. Mais tout d'abord, je vais recevoir Dr Agoumi qui est ophtalmologiste spécialiste en glaucome parce qu'on va parler du glaucome avec lui. C'est une maladie qui est méconnu encore et je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il appelait ça même le voleur silencieux de la vue. Et moi-même, j'ai un glaucome. Alors là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai un voleur silencieux qui dort en mes yeux. Bonjour, monsieur Agoumi.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Oui. Donc, on va parler du glaucome parce que c'est votre spécialité. Et tout d'abord, pour les gens là, qui vont dire, ah, qu'est-ce que c'est le glaucome là, concrètement?
Alors, concrètement, dans sa forme la plus commune, en fait, le glaucome, c'est une montée de pression dans l'œil.
Mm-hmm.
Et cette augmentation de pression va entraîner finalement des dommages au niveau du nerf optique.
Okay.
Alors, le nerf optique, c'est, si vous voulez, c'est un câble électrique qui relie l'œil au cerveau et qui permet de transmettre toute l'information visuelle au cerveau. Donc, avec cette montée de pression, il va y avoir des fibres de ce câble-là qui vont... Puis, progressivement et souvent très lentement, il va y avoir une perte de la vision périphérique. Donc, une perte au niveau du champ de vision périphérique.
Oui.
Qui va survenir initialement. Et puis, dans les cas les plus sévères de glaucome, on peut même perdre la vision centrale et ça peut aboutir à la cécité.
Parce qu'il est vraiment question d'un... On voit là, au niveau des statistiques, là, mais il y a 100 000 Québécois qui vont avoir cette maladie-là. On parle de 2 % de plus de 40 ans et 10 % de plus de 80 ans. Donc, on le voit, là, c'est quand même... En fait, est-ce que c'est relié à la... Quand notre œil vieillit?
Alors, effectivement, mais bon, c'est vraiment une cause de cécité qui est très importante. C'est quand même la deuxième cause de cécité en Amérique du Nord.
OK.
Et c'est vraiment une maladie qui reste encore méconnue. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'actuellement, on a une semaine mondiale de glaucome du 9 au 15 mars.
Mm-hmm.
Parce que, justement, on aimerait que les gens se rendent compte que cette maladie est beaucoup plus dangereuse puis beaucoup plus sournoise qu'il n'y paraît. Alors, comme vous l'avez dit, ça va de 2 % chez les plus de 40 ans à 10 % chez les plus de 80 ans. Et malheureusement, vraiment, la majorité des patients qui l'ont l'ignorent. En fait, ils se promènent dans la rue, puis plus de la moitié des patients, plus de la moitié de nos 100 000 Québécois qui sont atteints de glaucome se promènent avec des dommages dans la rue sans même s'en rendre compte.
Mais justement, comment ça on appelle ça le voleur silencieux de la vue? Parce que pourtant, un champ périphérique qui rétrécit, il me semble qu'on s'en rend compte.
En fait, ça va rétrécir de façon vraiment lente et progressive.
Okay.
Et puis, si on perd... 1 degré par année ou une certaine portion du champ de vision, puis c'est lent et progressif. Évidemment, ce qui se passe, c'est que le patient ne s'en rend pas compte.
Okay.
Donc, vraiment, la seule façon de s'en rendre compte, c'est par un dépistage précoce. D'ailleurs, la majorité des études qui ont été faites, elles se sont penchées sur le diagnostic du glaucome, puis on a trouvé que, malheureusement, les patients qui se présentent à nos bureaux en tant qu'ophtalmologistes sont vraiment avec des stades qui sont déjà avancés ou modérés, avec déjà des dommages qui sont importants, puis on va le rappeler qu'ils sont irréversibles.
OK, mais justement, comment on va pouvoir le dépister? C'est dans un examen traditionnel?
Absolument. Alors, un examen chez votre ophtalmologiste ou chez votre optométriste avec un examen, ce qu'on appelle la lampe à fente, qui est une sorte de microscope avec lequel on regarde votre œil.
Okay.
Et de façon un peu plus précise, on va aller également faire un test de champ de vision, justement, pour détecter les pertes de champ de vision. Et souvent, on va également faire une sorte de photo du nerf optique pour voir les dommages au nerf optique.
Okay.
Donc, c'est un peu la triade, la pression qui va être prise avec votre ophtalmologiste ou votre optométriste et en même temps les tests de champ de vision et d'imagerie du nerf optique.
Et quand on parle justement du fameux champ de vision, mais ça, c'est comme si ça permet de voir... Je donne un exemple. Si je parle de moi, parce que j'ai du glaucome, mais quand je fais le test du champ de vision, c'est pas... Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, oh, t'as combien de pourcentage de vision? » Et de ce que je me suis rendu compte, c'est pas comme ça. Moi, mon champ de vision, là, il est un peu tout tordu. Il y a des bouts que j'ai un petit peu plus à gauche, en haut, un peu moins en bas. Tu sais, c'est pas clair comme un rond, là. Parce que souvent, les gens, ils pensent que c'est un rond clair. Exemple, là, ah, voici, je perds 1%, mais partout. Un autre pourcent, partout. C'est pas ça, là.
Alors, c'est absolument vrai ce que vous avez dit, puis vous avez été vraiment une bonne observatrice, parce que la majorité des gens, justement, ne vont même pas se rendre compte de leur déficit, à moins qu'on leur montre leur champ de vision, finalement. Donc, il y a des déficits qui vont être plus ou moins typiques, puis typiquement, ça commence en périphérie, ça va être ce qu'on appelle archiforme, comme une sorte d'arc en périphérie,
oui.
Qui va s'installer. Il y a vraiment d'un patient à l'autre, ça peut se présenter différemment, mais on va dire que habituellement, ça se présente en périphérie, ce qui est très difficile à détecter. L'autre élément, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que, bon, bien que ça soit une maladie bilatérale, puis que les deux yeux soient atteints, ils ne le sont pas de la même façon. Puis les deux yeux couvrent une portion du champ de vision. Finalement, les deux yeux peuvent couvrir la même portion. Donc, les deux yeux ensemble, c'est très difficile. Parfois de mettre justement en exergue ces déficits-là.
Mais est-ce que ça se pourrait qu'une personne perde en périphérie, mais exemple, juste en haut?
Absolument.
Ah.
Souvent, en fait, c'est un peu comme c'est un petit peu comme des mathématiques. Le nerf optique, il a une certaine distribution. Puis, en fonction de l'atteinte au nerf optique, si le nerf optique est atteint dans sa portion inférieure, vous allez perdre plutôt le champ de vision en supérieur. Donc, il y a vraiment une distribution. Puis, en fonction de la perte des fibres, on va avoir justement une perte de champ de vision qui va correspondre à ça.
Et c'est quoi les causes de cette maladie-là, là?
Alors, la cause la plus importante, c'est justement le facteur de risque. Le plus important, c'est la pression oculaire qui est élevée.
OK.
Et d'ailleurs, le traitement va se concentrer principalement sur ce facteur de risque. Les autres risques, comme vous l'avez dit, l'âge, les antécédents familiaux, c'est les deux autres risques les plus importants. Par la suite, bon, être originaire des Caraïbes, surtout à Montréal, l'origine africaine, asiatique, hispanique, il y a le diabète, la myopie.
Oui.
Le trauma à l'œil et également une utilisation chronique de cortisone.
Et il peut avoir aussi probablement, si j'ai déjà une atteinte au niveau de mon nerf optique, comme moi, exemple, mon nerf optique est atrophié, il est mal formé finalement de ma naissance, là, donc il y a déjà une atteinte.
Ben, il est déjà susceptible à la base.
C'est ça, il peut être plus susceptible. Et c'est quoi les traitements?
Alors, le traitement vraiment, comme je vous disais, c'est vraiment le facteur de risque principal auquel on va s'attaquer, qui est la pression oculaire. Et pour bien comprendre ça, il faut comprendre que le globe oculaire, c'est comme une sorte de globe qui est rigide, et c'est un système qui est fermé, et dans le glaucome, il va y avoir une accumulation d'un liquide qui est produit en continu dans l'œil, qui s'appelle l'humeur aqueuse. Il y a une sorte de robinet qui coule en permanence dans l'œil. Et là, je ne parle pas des larmes, je parle vraiment, ça se passe à l'intérieur de l'œil. Il n'y a aucune façon où vous en rendiez compte. Et ce robinet coule en continu et le liquide va aller dans un drain naturel qui s'appelle le trabéculum. Et finalement, il va être excrété de cette façon-là pour maintenir une certaine pression normale. Donc, dans le glaucome, c'est finalement un défaut au niveau du drain. Le drain fonctionne moins bien. Et il va y avoir une accumulation de ce liquide et une montée de pression qui endommage le nerf. Donc, tous nos traitements, en fait, la majorité de nos traitements vont aller justement essayer de baisser la pression, soit en augmentant le drainage, soit en fermant le robinet, finalement.
OK.
Et on peut faire ça soit avec des gouttes, soit avec des lasers.
Souvent, c'est la première, je pense, le premier traitement, c'est les gouttes.
Absolument. En fait,
Oui.
les gouttes, souvent, c'était le premier traitement et ça demeure encore le premier traitement. Mais avec l'avènement des lasers, la trabéculoplastie, je vous dirais qu'il y a certaines études qui ont démontré qu'on peut commencer également avec le laser. Ça
Ah.
peut être un premier traitement, surtout
OK.
chez les gens qui ont de la misère à mettre leurs gouttes.
Oui, c'est ça, parce que c'est pas tout le monde, hein, qui a de la facilité.
Absolument.
Et il peut avoir aussi, je pense, peut-être aussi un. J'avais déjà entendu ça, le faire comme un petit trou dans l'œil.
Oui. Alors là, on parle justement de chirurgie, mais bon, il faut comprendre que quand même, ça va être une minorité de patients.
Ah, d'accord.
Il y a 90 % des patients vont être corrects avec un traitement qui est médical,
okay.
que ce soit des gouttes ou avec un laser.
Okay.
Par contre, pour le restant, une chirurgie va être nécessaire. Puis on va essayer de créer encore une fois un drain artificiel pour essayer justement d'avoir une voie alternative pour que l'humeur aqueuse puisse être évacuée.
Ah, OK.
Donc on fait une sorte de trou dans ce globe rigide. Et il y a toutes sortes de chirurgies, mais on va typiquement vous séparer ça en deux. Les chirurgies qui étaient plus traditionnelles, qu'on appelle les trabéculectomies ou les tube shunts. Et il y a les nouvelles chirurgies qui s'appellent les chirurgies micro-invasives.
OK.
Et ça, c'est des sortes de miniaturisations qui sont sorties depuis quelques années, puis qui sont vraiment décrites comme plus sécuritaires, moins invasives, avec une convalescence qui va être plus rapide. Par contre, la majorité de ces nouvelles chirurgies sont un peu moins efficaces que les traditionnelles et sont aussi également associées à un certain coût.
OK. Et, un coût en termes de conséquences qu'il peut y avoir?
Pas vraiment, non, un coût financier.
Financier,
un
coût OK.
Financier, mais en termes de chirurgie, elles sont plus sécuritaires, mais il y a définitivement un coût associé à ces chirurgies-là. Puis, les études sont, bien qu'on ait de plus en plus d'études actuellement, je vous dirais qu'en termes d'études, c'est moins robuste pour l'instant que les chirurgies traditionnelles.
OK, OK. Et en prévention, évidemment, ben on va voir notre ophtalmologiste, notre optométriste une fois par année.
Alors, ce qu'on recommande finalement, c'est à partir de l'âge de 40 ans, tout le monde devrait aller justement voir son optométriste ou son ophtalmologiste. Puis, si tout est normal, chaque 2 ans par la suite. Ceci dit, effectivement, en fonction des facteurs de risque, votre optométriste ou votre ophtalmologiste va vous voir plus souvent. Et j'aimerais juste aussi spécifier que bien qu'on dise ça, il faut pas oublier que le glaucome peut survenir à n'importe quel âge.
Mm-hmm.
Le glaucome chez les bébés, chez
oui.
les enfants, il y a des glaucomes
oui.
juvéniles. Donc, il y a toutes sortes de glaucomes. Mais on va dire, dans la majorité, le terme de glaucome, le glaucome primaire, qui est de loin le plus fréquent, ça va être à partir de l'âge de 40 ans qu'on suggère un dépistage.
Bien, merci beaucoup, M. Agoumi, de nous amener cette petite lumière-là par rapport au glaucome et de dire que ben on peut faire quelque chose et c'est d'aller voir notre ophtalmologiste ou optométriste pour faire un bon suivi de nos yeux parce qu'ils sont précieux. Merci beaucoup, M. Agoumi.
Merci à vous.
Merci, bonne journée.
Bonne journée.
Merci. Et là, on va poursuivre en chronique avec Ariane Breton. Et Ariane Breton va venir nous visiter comme ça, par-ci, par-là. Et elle va venir mettre sa petite touche de santé, hein, parce qu'elle travaille beaucoup au niveau de la santé. Donc, sa chronique, c'est en santé simplement, mais tout avec une certaine sensibilisation qu'elle va nous amener. Donc, on va pouvoir en parler avec elle tout de suite après la pause.